atteindre 88 miles à l'heure.
La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.
RVE, bonne matinée. Il est 10h. Le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, bonjour à tous. La rétrospective de votre actualité de la semaine, évidemment actualité dominée par l'élection présidentielle. Ça a été la semaine des petits candidats, comme on dit. Ils ont existé, c'était mardi soir lors du débat télévisé, ils ont existé pendant 17 minutes, des candidats qui feront entre 0 et 1%, et c'était prévisible. Ils ont attaqué les gros candidats pour médiatiquement faire parler d'eux. La star, ça a été bien sûr Philippe Poutou. Mais un débat à 11, c'est compliqué, c'était souvent confus, un peu la cacophonie. Du coup, France 2 d'ailleurs abandonne son idée d'un débat télévisé le 20 avril entre 11 candidats. En plus, à 3 jours du premier tour, il faudra éviter les piques et les attaques qu'on a vues mardi. France 2 change la formule et ce sera une série d'entretiens individuels en direct. Emmanuel Macron a dévoilé cette semaine son affiche et son slogan de campagne. Macron président, la France doit être une chance pour tous. L'affiche de Jean-Luc Mélenchon, la force du peuple. Marine Le Pen, au nom du peuple. Benoît Hamon, faire battre le cœur de la France. François Fillon, une volonté pour la France. Des affiches qu'on verra à partir de ce lundi partout en France. La campagne officielle commence ce lundi. Ce sont les deux dernières semaines et traditionnellement, c'est ce qu'on dit, c'est là que tout se joue car au fur et à mesure que l'urne se rapproche, eh bien au pied de l'urne on fait son choix et ça se clarifie. Y aura-t-il un croisement des courbes entre Emmanuel Macron et ses poursuivants Fillon et Mélenchon? Si l'on analyse la suite des 4 sondages publiés cette semaine, on s'aperçoit qu'Emmanuel Macron commence à baisser et que Fillon et Mélenchon commencent à monter. Dans 4 sondages différents, Emmanuel Macron perd entre 1 et 2,5 points, tandis que François Fillon soit est stable, soit gagne jusqu'à 2 points. Jean-Luc Mélenchon gagne également jusqu'à 2 points, voire 2,5 points. Un effet ciseau qui serait donc préjudiciable à Emmanuel Macron et qui qualifie au second tour François Fillon ou Jean-Luc Mélenchon. Les 15 derniers jours vont être passionnants. L'autre actualité de la semaine a été géopolitique avec d'abord cet attentat dans le métro de Saint-Pétersbourg, 14 morts et plusieurs dizaines de blessés. Attentat islamiste, mais aucune manifestation de solidarité et de compassion dans les grandes capitales européennes. La Tour Eiffel n'a pas été éteinte, par exemple, ou ne s'est pas mise aux couleurs de la Russie comme elle l'a fait pour d'autres pays victimes d'autres attentats ces derniers mois. La Russie qui hausse le ton et qui lance une escalade après les frappes aériennes des États-Unis contre la Syrie alliée de la Russie. Alors par le jeu des alliances, la Russie s'interpose et va renforcer les défenses aériennes de l'armée syrienne à la suite des frappes américaines contre cette base militaire syrienne. Frappe ordonnée par Donald Trump en représailles à l'attaque chimique de mardi, attribuée sans aucun doute par la Maison-Blanche aux troupes de Bachar al-Assad. Sauf que aujourd'hui, personne n'est en mesure de démontrer que c'est bien le régime de Damas qui a frappé sa population à l'arme chimique. En tout cas, la crispation sur la scène géopolitique pourrait peut-être avoir une répercussion sur l'élection présidentielle. Ce sera aussi à suivre de près dans les 15 prochains jours.
La météo de votre région sur RVE. Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Et oui, bonjour à toutes et à tous. De toute façon, la météo va faire très beau aujourd'hui. On a un grand et beau week-end de sport, donc on va se régaler. Et on va donc vous accompagner durant cette belle journée, ce grand week-end de sport avec notre invité qui ce matin est exceptionnellement au téléphone. Il a eu un petit pépin donc pour venir, donc on va l'avoir pendant au téléphone pendant une heure. C'est Jean-Claude Joran du comité départemental de ski et président donc de la section biathlon de Montesson. Jean-Claude, bonjour.
Bonjour Philippe.
Oui, alors comment ça va d'abord?
Ça va. C'est vrai que la journée a mal commencé, mais bon, on va faire avec. Hein.
Très bien, donc on va naturellement, Jean-Claude, hein, tout au long de cette émission, parler d'abord de ce qui se passe en matière de ski dans notre département, et puis aussi pour le biathlon sur Montesson, qui est un des sports importants.
Tout à fait. Et...
Très bien. Donc vous restez donc en écoute, vous ne bougez pas. On va donc parler hippisme, hein, on l'avait promis aussi, hein, il y a 15 jours, c'était la rentrée des courses à l'hippodrome de Rambouillet. Et puis on vous avait promis la semaine dernière à la fin de notre émission Tribune Foot, émission très 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 animée, hein, et puis aussi dans le Tribune Sport d'il y a 15 jours, on avait parlé de cette rentrée des courses, et bien de vous faire connaître par le biais d'infos directes le vainqueur de ce prix RVE 2017, hein, qui constituait un des temps forts de cette première réunion de la saison à l'hippodrome de Rambouillet. Donc vous voulez connaître le vainqueur de cette édition 2017, et bien vous bougez pas, on va écouter maintenant le reportage qu'on a et le commentaire qu'on a fait en faux direct avec notre ami Boris il y a 15 jours à l'hippodrome. Allez, bienvenue donc pour le prix RVE en cette rentrée des courses à l'hippodrome de Rambouillet. Boris, septième course de cette première réunion de la saison à travers donc le prix RVE.
Oui, effectivement, tout s'est bien passé jusqu'à maintenant. Mathieu Abrivard en a gagné 4, Franck Nivard 2. Et là, on est une course d'apprenti, ça va partir. Voilà, c'est parti. Les deux échelons sont admirablement bien partis. Le 6 part légèrement à la faute, Bella. Il est repris, il passe à l'arrière-garde. En tête de cette course, c'est Bonus de Juine, le numéro 2, qui prend gentiment la tête de la course avec derrière le 9 Brabus Blue Cœur qui sont tous les deux en tête, alors que derrière il y a un cheval qui semble être très mal parti, si je ne m'abuse c'est le 15 Bacchus Della. On va attaquer le premier virage, tout le monde semble bien groupé à exception d'un concurrent qui est assez éloigné. On attaque le premier virage toujours en tête de cette course, Bonus de Juin avec Big Smile dans ses talons. Derrière semble y avoir Bella qui a repris finalement le départ, qui était mal parti, légèrement fautif au départ.
Alors Boris, on va rappeler un apprenti l'aide de jockey, c'est cette épreuve donc du prix RVE, c'est pour une épreuve longue de 2800 mètres.
Effectivement, 2800 mètres, il y a un classement pour les apprentis qui sont des jeunes prétendants au métier de jockey, et on a d'ailleurs dans cette course des fils de jockey aguerris déjà dans cette course. Donc c'est des apprentis qui ont entre 16 et 18 ans et qui font leur classe pour devenir des illustres jockeys plus tard.
Donc pour l'instant c'est assez compact.
Oui, c'est assez compact. On va passer bientôt devant la tribune. Pour l'instant, le rythme est relativement peu soutenu. Donc, ce qui donne, le temps aux chevaux de l'arrière de revenir. Le 7 de Bon Génie Loup semble faire un petit effort pour venir s'installer juste devant. Donc là, ils vont nous passer devant. Ça va être un petit peu plus facile de les voir. Donc, en tête de cette course, pour l'instant, le 15, Bacchus Della, qui était très mal parti, qui finalement a repris devant. Devant le numéro 5, Big Smile.
Et le 7, 13 et le 11.
Voilà, le 7 Boy du Rib qui est aussi devant dans le paquet à l'intérieur. Alors que derrière, on trouve le numéro 10, Bon Génie Loup, qui pour l'instant dernier de la course. Mais on a fait à peine la moitié du parcours, donc tout reste encore possible. Mais on peut noter quand même que devant, le 15 a fait un très très bel effort puisqu'il partait 25 mètres derrière les autres.
Alors il fait très beau à l'hippodrome de Rambouillet. Les conditions météo peuvent avoir des incidents sur cette épreuve.
Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, l'excuse si un cheval ne fait pas une bonne performance ne peut être dû aux conditions, puisque le terrain est parfait et le vent que nous avons eu hier a séché parfaitement la piste, donc c'est très 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 bien.
Il y a des petits rounds d'observation là pour l'instant pour certains chevaux.
Bien pour l'instant ça semble effectivement un peu s'observer, si ce n'est que le 15 qui était aux 25 mètres donne quand même un rythme assez soutenu à la course. Je vois le 5 Big Smile qui est dans son dos avec ensuite Brabus Blue Cœur. Donc pour l'instant c'est le trio de tête à l'extérieur, bien à l'extérieur, Boy du Rib, le numéro 7, et là on compose globalement les 4 premiers de la course. La course va commencer à se décanter d'ici à peu près 20 secondes quand on va attaquer le dernier virage, mais le 15 sent bien accroché à sa première place et donne le rythme à la course pour l'instant.
Oui, un rythme pas trop soufflé quand même.
Non, un apprenti en règle générale, c'est pas le chrono qui est privilégié, mais c'est plutôt la tactique de course. En tout cas, le jeune apprenti menant le numéro 15, c'est Tristan Ouvry, dont son papa est un jockey aguerri, semble mener la course à bon train.
Voilà, donc là on va pénétrer dans le dernier virage, l'ultime virage, Boris.
Effectivement, Tristan semble le mener à bon rythme. Il a pris 2 longueurs d'avance sur le reste du peloton, qui semble être emmené par le numéro 9, Brabus Blocker, et le numéro 7, Bella est toujours en embuscade derrière, alors que là il y a un petit rapprochement de l'ensemble du peloton. Difficile pour l'instant de voir, si ce n'est que le 15 est toujours en tête. On va attaquer la dernière ligne droite, le faux plat de Rambouillet, puis la montée. Donc c'est là en général que la course se décante. cartes et risque de se jouer. Toujours le 15 en tête, tête et corde. Donc pour l'instant, il semble s'économiser. Il n'y a pas d'attaque prévue pour l'instant à l'extérieur. C'est plutôt son intérieur que ça se démange. Attention, le 7 semble accélérer. Il est attaqué. Le 15 est toujours en tête. Il s'allonge. Donc ça devrait être bon pour lui. Oui, oui, Tristan Ouvry semble
le faire.
Oui, alors qu'il est attaqué par le 13. Ce dernier moment, Buslay. Et Buslay vient gagner sur le poteau devant le 3 et le 16. Borsalino Duclos et ensuite Betty Castellet. Il est battu au poteau. Effectivement, Tristan a été battu au poteau par Brian Coppens. Excellent jockey belge, si je ne m'abuse. Donc Buslay, le numéro 13. En deuxième position, le 15, Bacchus Della. Et ensuite, faudra voir, mais je crois que le 3, Borsalino Duclos, a dû être sur le podium pour la troisième place.
Oui, le 15 semblait plutôt bien parti. Puis il s'est fait remonter. Il a faibli dans la dernière ligne droite.
Je dirais qu'il a eu tout le poids de la course sur son dos. Il a craqué juste dans les derniers hectomètres. C'est dommage. Mais on peut remarquer que l'effort qu'il a fait au départ lui a été préjudiciable pour la victoire. Mais enfin, c'est quand même une deuxième place qui a été soufflée sur le poteau par Brian Coppens, qui est quand même un jockey apprenti, un tout petit peu plus expérimenté. On va dire que c'est peut-être le fait d'avoir un petit peu plus d'expérience qui a fait peut-être la différence au dernier moment. En tout cas, très belle course d'apprentis qui sont en devenir et ça devrait promettre pour l'avenir.
Voilà, effectivement, ça devrait promettre pour l'avenir. Donc, victoire de Brian Coppens, Boris l'a dit, avec Buslay, donc le numéro 13, devant Bacchus Della, Tristan Ouvrier. Et le troisième, c'est bien Borsalino, monté par Steve Ladan. Monsieur, donc, Joran, est-ce que vous aimez les courses hippiques?
Oui, oui, ça m'arrive de me passionner un peu pour les courses, mais je veux dire... Sans plus.
Hein. Sans plus, d'accord, ok. Il n'y a pas de point commun avec le biathlon dans la manière de courir. Jean-Claude Joran. Alors, on a perdu Jean-Claude Joran. Alors, on va... Ça, c'est le problème des portables. On va donc passer l'interview donc maintenant du vainqueur du prix RVE, donc Brian Coppens. On va passer cette interview qu'on a faite en commun avec Boris à l'issue donc de ce prix RVE.
Alors Brian, victoire sur ce prix RVE.
Très bien, le cheval court très très bien. Il venait déjà de bien gagner à Laval et là il confirme aujourd'hui.
Belle dernière ligne droite.
Ouais, super, j'ai eu le bon parcours. Le cheval de Franck Ouvry m'a emmené jusqu'à 200 mètres du poteau et j'ai pu sortir. Et quand il a ce parcours là, il sait faire 200 mètres très très vite.
C'est bien, je pense qu'il est encore un petit peu en retard de gain. Donc ça peut laisser des espoirs pour les futures courses encore.
Oui, il faut qu'il prenne les choses du bon côté. Il est un peu nerveux comme cheval et Poulain, il galopait souvent alors qu'il était très bien à la maison, mais il faut qu'il prenne les choses du bon côté. Je pense qu'en vieillissant, ça ira de mieux en mieux.
Bon, tu vas revenir maintenant sur Rambouillet.
Ouais, bah oui, si ça se passe comme ça, on va revenir.
Voilà. Et puis la suite, c'est quoi?
Là, on va voir comment il récupère. On va voir. On essaye de le courir une fois par mois pour pas qu'il monte trop en nervosité et on va voir comment il récupère.
Combien de victoires, l'apprenti?
Là, c'est ma 39e.
Bravo, donc merci. Encore 11.
Exactement.
Bon, félicitations.
Merci beaucoup.
Bravo, Marianne. Merci.
Voilà, donc pour le vainqueur du prix RVE, LAD Jockey 2017, Brian Coppens. Il est très très sympa, Brian. Alors les prochaines réunions, eh ben ça sera dans 15 jours, le dimanche 23 avril. Ensuite, on enchaînera le 7 mai, puis le 21 mai, ça sera la grande réunion Pronium. Ensuite, ça sera le dimanche 4 juin, le grand week-end de la Pentecôte. Et puis le 25 juin, on aura donc la dernière réunion juste avant les vacances d'été. Il y aura même d'ailleurs un timbre à l'effigie de l'hippodrome de Rambouillet qui sera à cette occasion présenté. Après, on partira donc en congé, puis on reviendra aux courses à l'hippodrome le dimanche 3 septembre, puis le 10 septembre, et on finira avec le 1er octobre. Alors, est-ce que on a retrouvé M. Joran? Sinon, ça va poser problème. M. Joran?
Oui, je vous écoute, Philippe.
Oui, voilà. Bon, on a eu un petit... Bon, on a pu enchaîner oui. Donc sur les chevaux. Alors, il fait beau, c'est le printemps. Est-ce qu'on peut skier encore?
Bon, écoutez, là, ça devient difficile. Hein. C'est vrai que c'est la neige de printemps, mais il y a encore quelques stations où on peut skier, tout à fait.
Oui, il y a des sites, je crois, qui sont ouverts jusqu'au début mai, c'est ça, hein?
Oui. C'est vrai que avec la neige de culture, maintenant, on peut... Bon, mais c'est vrai que la température s'est bien relevée. Hein. Mm-hmm. Et c'est vrai que la saison a été difficile aussi depuis le mois de janvier.
Ah d'accord, ça veut dire qu'il n'y a pas eu trop d'enneigement, donc ça a posé des petits problèmes pour aller pratiquer ce sport, et puis peut-être aussi pour les différentes compétitions organisées là-bas sur place.
Oui, surtout en matière de biathlon et en moyenne montagne. Donc oui, cette année, c'était un peu plus compliqué que les autres années, disons.
D'accord. Alors, monsieur Joran,
Même ailleurs, hein, même oui. Dans les pays nordiques aussi. Hein.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, monsieur Joran, vous êtes donc dans le comité ski Île-de-France, Nord-Ouest, hein, et puis vous êtes présent de la section biathlon de Montesson. C'est facile quand on est dans notre région de pratiquer ces sports?
Bah, écoutez, non, ça n'a jamais été difficile. C'est vrai que c'est vraiment atypique du fait de l'éloignement, mais aussi de la disponibilité et puis, je dirais aussi, l'aisance financière. Hein. Faut pas se cacher. L'hébergement, l'équipement, le transport, tout ça fait que le ski, aujourd'hui, il n'est peut-être plus à la mode, comme je dirais, il y a 20 ou 30 ans. Bon, c'est vrai que il y a aussi l'effet sociétal qui joue, hein. L'esprit famille, enfin bon, les temps changent aussi, mais c'est vrai que le ski devient très difficile à pratiquer.
Ouais, c'est ça le gros problème, la grosse difficulté. Il y a combien de clubs recensés pour l'instant donc en Île-de-France?
Alors en Île-de-France, on en compte 49 aujourd'hui.
Ah, quand même.
Qui représente, oui, 49 en majorité de l'alpin, hein, la discipline alpin. Maintenant, ça représente à peu près 1500 licenciés, alors qu'à une époque, on dépassait les 40 000. Ouais. Vous voyez la déperdition qui a pu se produire en 20 ans, une vingtaine d'années, disons.
Alors, ouais, ça c'est pour l'Île-de-France. Et dans les Yvelines, on sait qu'il y a un club qui est très connu, c'est Viroflay, dans notre région.
Alors, effectivement, Viroflay était la cheville ouvrière du ski alpin, mais aussi du ski acrobatique, comme vous le savez, avec le vice-champion olympique Sébastien Foucras à Nagano, hein, dans les années 98, si j'ai bonne mémoire.
Oui, c'est ça. On avait même
grâce à Bernard Tonnelio.
On avait même eu en interview, hein, donc Sébastien Foucras.
Ouais.
Ouais. Et
qui aujourd'hui, aujourd'hui dans d'autres domaines, hein, mais pas du ski.
Oui, c'est ça. Il est dans l'événementiel et puis pour tout dire, c'est le mari, je crois, à Marie-Jo Pérec. Bon, enfin, ça c'est pour la petite histoire. Voilà. Ouais. Alors, monsieur Joran, il y a Viroflay, mais quels sont les autres clubs importants dans notre région? On parlera après du biathlon sur Montesson, hein, mais au niveau ski, quels sont les autres clubs importants?
C'est vrai que ce sont plus des clubs corporatifs, hein, de grandes, soit dans le domaine de l'aérospatial, ou soit dans le domaine de l'avion, ou dans le domaine automobile, pour ne pas citer les marques. Mais c'est vrai que ça représente à peu près 5 clubs actifs aujourd'hui sur 8, voire une bonne douzaine il y a quelques années. Et ça représente moins de 100 licenciés aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas très très brillant. Ça se maintient, mais au plan plutôt loisir que compétition.
Voilà. Ouais, c'est ça, parce que faire de la compétition, bah, c'est difficile d'aller s'entraîner, hein, puisque on n'a pas le terrain qui est propice pour. Et puis, il faut simplement partir le week-end, quoi. Voilà, c'est ça.
Voilà. À l'occasion des vacances scolaires, principalement.
Mais comment faisait un garçon comme Sébastien Foucras, par exemple, pour le ski accro? Il partait pendant 6 mois à la montagne, carrément?
Oh ben, c'est-à-dire il était constamment en stage, hein. Il faisait des stages de préparation à Evian ou en Suisse. C'est vrai que la structure française n'était pas très très développée, donc il y avait une mutualisation avec l'équipe suisse, je crois, pour les entraîneurs et les déplacements. Et donc oui, il était parti à peu près 6 mois dans l'année pour faire des stages. Plus lui faisait les grandes compétitions internationales, donc oui. Et donc une très grande disponibilité.
Oui, ouais. Et puis naturellement, quelqu'un qui voudrait en Île-de-France donc pratiquer ces disciplines, tout de suite vous les conseillez de partir vers des grands clubs alpins ou pyrénéens, ou vosgiens ou jurassiens?
Oui, c'est la seule démarche possible, puisque nous n'avons pas de structure vraiment avec entraîneur et installation suffisante pour les initiés, oui. Mais quand on arrive à un certain stade de compétiteur, là, non, on n'a plus les moyens. Effectivement, là, c'est l'obligation de partir dans un club en moyenne montagne ou montagne carrément pour le ski alpin. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop de projets ces dernières années, avec même avec des jeunes ou des adultes. Non, je dois dire que moi-même, en 14 ans d'expérience, j'ai peu compté les projets sur les doigts d'une seule main. C'est vous dire la difficulté.
Alors, vous parliez tout à l'heure de Bernard Tourfou, hein. Vous avez pris sa succession. Il a beaucoup fait, beaucoup apporté pour ses disciplines dans notre région.
Oui, tout à fait, parce que lui avait une très très grande culture de ski, ski alpin, puis de par sa profession d'éducateur sportif. Donc oui, il était très impliqué avec la Fédération française de ski et puis avec le comité régional aussi, où il organisait des déplacements avec toutes ses équipes.
Oui, on va le saluer d'ailleurs, hein. Je sais qu'il est aussi passionné de voile, donc on va le saluer, hein, Bernard Tourfou, s'il nous écoute.
Ah, il est à Cherbourg actuellement, oui. Et il vient de fêter ses 90 ans.
Eh ben, c'est bien, ouais. C'est bien. Vous voyez, comme quoi, ça conserve, hein, le ski.
Le ski.
Alors, donc, Jean-Claude, les clubs se spécialisent, et vous, à Montesson, vous êtes spécialisé dans le biathlon. Pourquoi ? C'est une vieille tradition ?
Écoutez, ça remonte dans les années 97, hein, oui, après les Jeux de l'Isère en 96. Et puis là, c'est vrai qu'il y a eu le directeur des équipes de France militaire qui s'est retiré à Saint-Germain. Il est venu au stand de tir de Montesson. Il a fait une petite conférence sur le biathlon. Et tout de suite, ça a bien plu. Et il y a eu un biathlon d'été et qui a connu tout de suite le succès. Et par la suite, le club de tir a voulu monter un club de biathlon vraiment spécifique pour la discipline, en faisant des stages l'hiver pour l'école de tir de la Propatria à Montesson. Et c'est devenu par la suite, alors je suis arrivé quelques années après, dans les années 2003, et c'est là qu'on a pris le concept du ski roue, où j'avais eu la chance de trouver un moniteur de ski roue, et tout de suite on a fait une école de ski roue et tir biathlon, puisqu'on avait le stand de tir et la structure pour le faire, et on est parti sur une école qui perdure jusqu'à aujourd'hui.
Oui, puis c'est un des sports importants aussi sur Montesson, hein, le biathlon mine de rien.
Oui, on a quand même une cinquantaine de licenciés, et puis ils sont accros, les jeunes sont accros au tir et au ski roue, et voilà, avec les familles, dans un esprit sport loisir. Voilà. Avec une petite équipe de compétiteurs qui, elle, va participer sur des compétitions, soit de ski roue, soit de ski nordique, hein, de ski de fond. Avec notamment le circuit, soit des courses internationales, alors c'est des circuits de style World Lopet, style Martial Anga, la Dolomite Loaf. Donc on a une catégorie d'adultes qui privilégient ce genre de déplacement collectif, et puis d'autres qui vont faire plus des petites distances, des 15 ou des semi-marathons. Et là, ils vont se faire plaisir également, tout en ayant un petit classement fédéral et régional.
Voilà. Oui. Et vos jeunes, donc, et vos pratiquants ou pratiquantes, je ne sais pas s'il y a des jeunes filles et jeunes femmes, ils viennent tous de Montesson ou ça vient de beaucoup plus loin ?
Non, ça vient de la région parisienne.
Ouais, c'est bien.
Il y en a même qui viennent de la Ferté-sous-Jouarre, de Melun, d'Antony. Non, pas forcément de la boucle de la Seine, mais en majorité quand même. Mais non, ça vient tout azimut, parce que c'est vrai qu'un club de biathlon, il n'y en a qu'un sur la région parisienne.
Et puis, il y a beaucoup de femmes aussi ? Beaucoup de jeunes filles ?
Alors, il y a des femmes, on privilégie maintenant un peu le sport féminin.
Oui.
On essaye de les attirer. Et le sport féminin marche bien au niveau du ski roue, biathlon, oui, tout à fait.
Quelle est la tranche d'âge représentée ?
Ça représente un quart de nos adhérents, à peu près.
D'accord, ok. Et la tranche d'âge, donc, représentée au sein de votre section, c'est quoi ? C'est assez vaste, hein ?
Oui, c'est assez, disons, de 10, 12 ans jusqu'à, on va dire,
C'est bien. Vous voyez, alors, monsieur Joron, qu'est-ce qui est le plus dur? C'est d'aller skier, de s'initier au ski de fond, ou finalement de savoir bien tirer?
Les deux sont forcément très ludiques. L'un par rapport à l'autre, non, on le privilégie pas, mais le tir, je veux dire, attire plus au niveau des jeunes, ça. D'accord. C'est clair. Et surtout puis... cette forme de tir biathlon tiré sur des cibles ou même sur des cartons, c'est quelque chose de, ou même des petites cibles à palette, comme l'air comprimé à 10 mètres. Là, c'est vraiment très intéressant, très ludique.
Oui, et puis on sait que le tir, ça peut être prépondérant. On le voit beaucoup dans des épreuves de biathlon, dans des compétitions de biathlon. Hein. Ça peut carrément faire perdre. C'est peut-être un peu plus handicapant qu'un mauvais parcours en ski de fond.
Oui, parce que c'est vrai que la pénalité selon les formats de course est quand même importante. Donc c'est vrai, l'erreur au tir est toujours prépondérante par rapport au ski, mais quand on a la chance de bien skier et la chance de bien tirer, c'est quand même l'idéal.
Ah bah oui, c'est l'idéal. Hein. Alors bon, vous avez des très bons résultats dans votre club. Vous l'avez dit, vous êtes l'unique club en Île-de-France. Est-ce qu'il y a de très bons résultats pour Montesson?
Ouais, on n'a pas vraiment de résultats significatifs. Peut-être en ski roue, on a quand même un élément qui a fait le challenge national où il a terminé à la 6e place. C'est vrai que sa régularité a payé parce qu'il a fait pratiquement toutes les épreuves par rapport à l'élite nationale. Donc son engouement et son assiduité ont payé par la régularité. Et donc il est quand même pas loin des meilleurs, mais certainement le meilleur régional, oui.
Et quelqu'un qui serait doué, voué à peut-être une belle carrière, faut impérativement l'envoyer vers un club de montagne. Faut pas qu'il reste.
Oui. Là, c'est impératif parce que on n'a pas la structure au niveau des entraîneurs pour justement continuer et se perfectionner au haut niveau.
Une saison, ça dure de quand à quand chez vous, monsieur Joron?
Disons que la saison avec la préparation et les stages du mois d'octobre, l'ouverture de la saison, c'est le 15 octobre, jusqu'à maintenant, jusqu'à fin mars.
Oui, c'est pour ça qu'on avait...
On a encore une équipe qui va participer en Laponie à une belle épreuve en Laponie qui dure toute la semaine. Ils font à peu près 200 km, ils sont deux ou trois. Voilà. Donc, chez les jeunes, on a cette année deux bons qui font des petits résultats intéressants à la tranche jeune et puis une petite course locale à la Vatay du côté du col de la Faucille, ça s'appelle la Dégringolade, et c'est pour les tout jeunes. Et puis un autre qui s'est confronté au Savoyard carrément. Et là, il n'a pas été trop ridicule. Enfin, bon, il termine à un quart d'heure. Mais il n'a pas été ridicule avec ses 16 ans. Et il a osé se confronter avec les autres. Et c'était très courageux de sa part.
C'est bien, c'est bien. C'est pour ça qu'on avait justement donc prévu cette émission, hein, pour faire un petit peu le bilan de la saison. Maintenant, ceux qui vont s'arrêter vont continuer quand même durant l'intersaison à travers le biais de d'autres sports comme le vélo, la course à pied, histoire de rester en forme.
Oui, c'est ça. C'est l'hiver sur les skis et la préparation pour l'été pour certains, soit en athlétisme, soit le vélo, effectivement, ou les marathons.
Et pas prendre trop de poids, hein. C'est important.
Et oui, c'est toujours en activité, rester en activité totale.
Très bien, tout est parfait, monsieur Joron. Vous restez avec nous en écoute, hein, parce que oui, on va envoyer la pub et puis la pause musicale et puis on remonte hein, sur les planches de ski et de biathlon dans quelques minutes. On y va.
La Cime Verte et la Gage vous proposent un travail soigné et en toute sécurité. Vous souhaitez changer l'image et la luminosité de votre jardin ? La Cime Verte vous conseillera sur l'élagage et les soins à apporter à vos arbres. Comment les tailler ? Quelles sont les périodes à respecter selon les essences ? Et répondra ainsi à toutes vos questions. La Cime Verte, votre professionnel de l'élagage, 71 bis, rue de la Grange-Colombe, à Rambouillet. 01 30 46 23 36 ou www.lacimeverte.com.
Vous avez des colis de moins de 400 kg à livrer, des clés ou un courrier à transmettre rapidement? Vous ne savez pas à qui vous adresser? Allo Colis Express est la solution à votre problème. Allo Colis Express, 06 16 85 37 81. 06 16 85 37 81.
Au cœur de la vallée de Chevreuse, les salons Léopold, le lieu idéal pour animer vos week-ends. Les salons Léopold vous proposent, les vendredis et samedis soirs de 19h30 à 2h du matin, un buffet à volonté fait maison, boissons comprises et soirée night club. Le dimanche, à partir de 11h30 à 18h, un brunch fait maison, avec les spécialités des fermes de la vallée de Chevreuse. Un salon de thé avec après-midi dansant et animation enfant. Les salons Léopold à Cernay-la-Ville, réservation et information sur www.salonleopold.fr et au 01 34 85 20 02. 01 34 85 20 02.
Mission in a foreign field. For some reason I can't explain. Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Oui, il est 10h34, cette émission, vous pourrez naturellement la réécouter en podcast, hein, comme toutes celles des semaines, des mois et de cette année 2016-2017, saison donc 2016-2017. Monsieur Joran, ça coûte cher donc de pratiquer le ski et le biathlon. On l'a dit, le matériel, il est à la charge naturellement du pratiquant.
Oui, tout à fait. Sauf pour l'école... biathlon, oui. Skirou, là on fournit le matériel.
D'accord.
C'est-à-dire les skirous, les chaussures, le casque, les bâtons, voilà, pour pratiquer. Maintenant c'est vrai que le matériel en lui-même, faut compter quand même une paire de skirous à peu près à 250 €, les bâtons, casque, on va dire une centaine d'euros. Il faut y rajouter aussi la fixation. Une fixation, c'est 50 à 60 euros. Enfin, vous voyez, donc dans un budget aux alentours de 500 euros, vous avez un matériel acceptable pour faire le ski roue. Maintenant, la carabine en elle-même, là aussi, nous avons des différents types de carabines, hein, de la 22 long rifle traditionnelle biathlon jusqu'à l'air comprimé à 10 mètres. Et puis le matériel à laser, les carabines laser toujours à 10 mètres, qui sont sans projectiles, hein, qui nous servent à faire des animations du reste. Et donc là, il faut compter un budget de carabine à, on va dire, la 22 long rifle à peu près à 3 000-3 500 euros tout équipé. Et la carabine laser à 1200 euros aujourd'hui. Avec la carabine à air comprimé aux alentours de 1300 euros. Voilà. Pour vous donner une fourchette de prix, hein.
Ouais, donc c'est un des désavantages aussi. C'est quand même un sport onéreux, cher, surtout à travers le tir.
Voilà, tout à fait. Parce qu'il y a le consommable après, hein. Donc, tout ce qui est plomb, enfin, tout ce qui est balle, plomb, plus la ciblerie, voilà.
Ouais, et ça, on fait une saison avec ou il faut aussi renouveler son matériel chaque saison?
Non, je vois par exemple Martin Fourcade, bah, il a sa carabine depuis qu'il est enfant. Hein. C'est-à-dire qu'elle est travaillée par la suite au niveau de la crosse, mais les canons restent les mêmes. Hein.
Oui, Monsieur Joran, le matériel a quand même considérablement évolué, tant au niveau des skis qu'au niveau des carabines. Ça aussi, ça entre en ligne de compte dans la performance et dans le résultat.
Oui, aujourd'hui, quand on voit les carabines, au début, c'était une marque française unique, traditionnelle, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais c'est vrai, la lourdeur du matériel et puis la conception fait qu'aujourd'hui, effectivement, le matériel est de plus en plus performant. Les skis également.
Oui, bien sûr. Donc c'est moins cher quand même dans les autres disciplines, il n'y a pas le besoin de carabine. Donc au niveau du ski par exemple, ou du ski accro ou artistique, là c'est quand même moins cher. Et on peut faire une saison avec une bonne paire de skis.
Oui, alors, bon, je connais pas trop ces disciplines-là, mais c'est vrai que quand vous allez dans la haute... quand vous rentrez dans le haut niveau, effectivement, vous avez des coûts assez impressionnant maintenant. C'est vrai qu'il y a les sponsors aussi derrière les marques. Donc voilà, ça aide. Hein.
Ouais. Bien sûr.
C'est coûteux de toute façon. C'est coûteux, les stages, les déplacements. Voilà.
Bien sûr. Quelles sont vos principales épreuves, monsieur donc Joran? Je sais que chaque début d'année, hein, vous nous appelez pour qu'on fasse un peu de promo pour une épreuve qui ouvre pratiquement votre saison.
Alors, oui, c'est vrai qu'au mois de... C'est plutôt la fin de saison. Enfin, début, on va dire, c'est au mois de septembre.
Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que pour vous, c'est... oui.
Ah, ouais. C'est la fin ou le début, mais enfin bon. Mais c'est vrai que le 24 septembre, nous avons traditionnellement, et on en arrive maintenant à la 23e édition, il s'agit du biathlon d'été, biathlon d'été qui est une boucle à faire trois fois sur un parcours de santé, avec un arrêt au stand de tir pour tirer à 10 mètres avec les carabines à plomb à air comprimé.
Voilà. Et puis après, il y a votre participation aussi à la grande journée olympique au mois d'octobre. Hein. D'une façon générale, on peut s'initier à la découverte du biathlon.
Voilà. Alors, c'est vrai, nous avons différentes associations. Là, on travaille avec le sport scolaire, avec la fédération UNSS qui est affiliée. Hein. Et donc là, déjà, au mois de mai, on a un petit rallye des sports nature au parc Millet à Achères. Là, c'est la municipalité d'Achères. Mm-hmm. Et puis le 23 juin, là, on va attaquer avec l'UNSS une journée scolympique à l'île de loisirs de Moisson. Et puis le 13 septembre, à Rennes du Collège, toujours avec l'UNSS, à l'île de loisirs, à Saint-Quentin-en-Yvelines. Là, ça sera l'occasion de voir en action, grâce aux carabines laser, un petit peu l'animation biathlon qui est faite, voilà, avec les jeunes.
Oui, et les jeunes sont réceptifs à cette discipline quand ils s'initient à travers leur établissement scolaire.
Ah oui, parce qu'ils ont un encadrement avec les professeurs d'éducation physique qui les briefent, qui leur font un peu connaître la discipline. Et quand ils rentrent dans le concret sur le terrain avec la carabine, là c'est très ludique pour eux. Et là, ils sont vraiment très accros. Mm-hmm. Parfois, il faut même les arrêter.
Ah ben, c'est bien. Alors, s'ils veulent venir vous rejoindre, que font-ils? Ils viennent au forum des associations début septembre?
Alors c'est ça, il y a forum des associations à la rentrée à Montesson pour venir s'inscrire, où nous pouvons les recevoir également au stand de tir de Montesson, 201 rue du 8 mai 45 à Montesson.
Très bien. Alors en dehors du matériel hein, dont on a parlé au niveau du prix, il y a le prix de la licence aussi, de la cotisation, c'est de combien?
Alors une petite licence jeune, il faut compter une quarantaine d'euros. L'inscription club, il faut compter 34 euros. Et puis les cours relire ski et tir, c'est 74 euros à l'année pour à peu près une vingtaine de séances.
Mmh. La sécurité est importante dans vos sports, dans votre sport. De plus en plus, on prend des mesures pour que finalement il n'y ait pas de gros problèmes.
Oui, alors c'est toujours le biathlon a toujours été, hein, c'est-à-dire
oui,
c'est une discipline de tir, donc là il y a des règles impératives de sécurité soit à l'intérieur du stand, soit à l'extérieur sur un pas de tir traditionnel biathlon. Le ski roue, il y a le casque, il y a les lunettes, mm-hmm. Il y a les gants, donc là aussi il y a des règles, bien précises qui sont donné par un moniteur fédéral. Donc nous avons un moniteur fédéral ski roue et un animateur de tir par le biais du tir, par le biais de la Fédération française de tir. Voilà.
Donc
effectivement, les règles de sécurité sont importantes et bien appliquées avec les enfants.
Oui, et puis on bloque aussi les routes hein, quand on fait du ski roue. Donc là aussi, il y a peut-être aussi des réglementations strictes à respecter, hein, comme pour le vélo, comme pour le patin.
Ouais, ouais. Hein? C'est assez difficile cohabitation hein,
oui,
entre
oui.
Les marcheurs, les vélos et les bâtons. Parfois, qui peuvent être dangereux aussi, parce qu'il y a une pointe en tungstène quand même au bout. Non. Nous préférons aller dans des endroits vraiment protégés. Là, nous avons le stade le parc des sports de Montesson.
Oui.
Nous allons aussi, alors là, pour les confirmer, sur la base de loisirs à 50 ans en Yvelines, ça nous est arrivé. Mmh. Mais aussi, vous avez au Bois de Boulogne des parcours qui sont fermés le dimanche matin et qui tournent autour du moulin de Blanchamp, qui tombe dans le haut au-dessus de la cascade de Boulogne.
Ah, d'accord.
Mmh. Donc là aussi, il y a un petit peu de dénivelé, donc ça peut être intéressant pour les confirmer. Hein.
Bien sûr.
Et donc là, on a des circuits qui nous sont propres.
Ouais. Alors, Monsieur Joron, oui, on sait qu'au niveau donc du biathlon, aujourd'hui il y a une image un peu différente. On en voit beaucoup sur les chaînes de la TNT, notamment l'équipe 21, et on sait qu'il y a de très bonnes audiences. Il y a un autre regard, une autre image depuis naturellement ces nombreuses médailles que ramène à chaque jeu d'hiver le biathlon, et puis surtout Martin Fourcade qui est une icône, un immense champion.
Oui, tout à fait. tout à fait. C'est grâce à lui, du reste, que le développement médiatique s'est produit. Au niveau de sa communication personnelle, je veux dire, mais avec ses sponsors aussi. Mais je ne crois pas pour autant que ça apporte énormément au club de biathlon.
Ah bon ?
En ce sens que, bon, c'est vrai que moi je le vois moins parce que je suis plutôt en ville. Peut-être que ce raisonnement-là ne tiendrait pas auprès de la moyenne montagne, où il y a quand même un engouement qui est très fort. Mais c'est vrai que pratiquer cette discipline est quand même difficile et demande énormément de non seulement de qualité mais aussi un encadrement vraiment de choix. Non, c'est vrai qu'en France sur ce plan-là, on est gâté hein, puisque on est quand même l'une des premières deuxièmes nations à avoir autant de résultats. Mais au niveau des pratiquants, je n'en suis pas sûr parce que aujourd'hui, on est 400 ou 500. Sur les 400 ou 500, régulièrement, en pratiquant, il y en a une bonne centaine.
Hein. Ah oui, c'est ça. Ouais, voilà. Mais en tout cas, ça fait quand même des bonnes audiences à la télé, hein, le biathlon.
Oui, parce que c'est un sport qui est superbe au niveau visuel et puis émotionnel. Et puis le suspense, jusqu'à la dernière balle, vous ne savez qui va gagner. Donc tout ça a fait effectivement dans un cadre superbe, de belles images. Mais pour autant, avant d'arriver à ce niveau-là, il faut voir que le travail qui est fait en amont représente à peu près entre 10 et plus de 10 ans de pratique. Donc à l'âge de 10 ans jusqu'à aujourd'hui, Martin Fourcade, puisqu'il a moins de 30 ans, vous dire le travail qui a été effectué pour arriver à ce niveau-là.
Oui, c'est vrai.
Et encore,
c'est
exceptionnel, parce que des champions en biathlon, c'est très difficile. Il faut un mental, et puis des qualités physiques et d'adresse qui ne sont pas données à tout le monde. Hein.
Effectivement, c'est bien de le rappeler à chaque fois. En tout cas, Martin Fourcade, il a gagné 6 Coupes du Monde entre 2012 et cette année 2017. Il a été 11 fois champion du monde individuel et naturellement double champion olympique en 2014. Et cette année, il a battu un record hein, avec 14 victoires. Il a battu leur nombre de points, 1322 points. Et puis, il a eu 26 globes de cristal au total. Ce sont des chiffres qui parlent, sans problème.
Oui, c'est un palmarès éloquent, mais c'est vrai que Bjarne Dahlen reste encore en palmarès à améliorer, mais c'est vrai que entre l'âge de Bjarne Dahlen, qui a 42 ou 43 ans, et l'âge de Martin Fourcade, on peut penser que Martin Fourcade est quand même meilleur que lui au niveau du ski et au niveau du tir. Il a encore une belle progression malgré tout à atteindre. Maintenant, c'est la durée de carrière de Martin qui fera la différence, parce que là, jusqu'à aujourd'hui, il a fait le tour de son sport.
Oui, c'est sûr. Alors au niveau du ski alpin, par contre, on a fait une bonne saison cette année hein, pour nos skieurs et skieuses qui ont bien marché dans les épreuves de Coupe du Monde. Ça s'est un peu moins bien passé au championnat du monde, hein, puisque il y a Tessa Worley qui a pratiquement sauvé, je dirais, la face en finissant première donc au slalom géant à Saint-Moritz. Hein, alors qu'elle avait quand même gagné, elle a fini quand même première en Coupe du Monde au classement final de l'épreuve des géants. Et puis Pinturo, lui, termine premier à l'épreuve du combiné, mais bon, on a quand même aussi une belle équipe de France, même si sur les championnats du monde, on est un peu resté sur notre faim.
Oui, tout à fait. Bon, tout ça, c'est une question d'être prêt le jour J.
Oui.
Maintenant, que s'est-il passé véritablement au sein de l'équipe c'est difficile, mais c'est vrai qu'être prêt le jour J, Martin, ça, c'est très bien
le faire. Oui.
Bon,
oui.
Maintenant, il y a toujours des impondérables et les paramètres personnels à gérer.
Oui, Pinturo, il a été un peu moins bon cette année, mais enfin, il gagne quand même le général de la Coupe du Monde au combiné. Et Worley, elle, c'est celle qui a marqué la saison, puis elle gagne donc le général en géant, puis elle est championne du monde pour le géant. C'est son deuxième titre, hein. Elle avait déjà été une première fois championne du monde en 2013. Et le classement final, c'est Hirscher, l'Autrichien, qui gagne chez les hommes, Marcel Hirscher, hein. Ça fait quelques années qu'il truste les succès. Et c'est Michaela Schifrin, l'Américaine, qui l'emporte chez les femmes.
La concurrence est quand même très, très relevée et beaucoup plus diversifiée que serait au niveau du Nordique.
Oui, bien sûr. Alors, on peut être optimiste pour les Jeux de Pyeongchang parce qu'on oublie que dans quelques mois, il y a des Jeux Olympiques d'hiver, hein, M. Joran.
Oui, c'est vrai. C'est une belle échéance encore. Mm-hmm. J'espère que nos équipes vont encore ramener des médailles. Je pense que là, ils sont quand même assez très motivé et puis il y a quand même une très belle équipe. Hein.
Oui, et puis on sait que traditionnellement, le biathlon rapporte pratiquement la moitié des médailles à chaque jeu d'hiver pour l'équipe de France.
Oui, c'est vrai, la relève est là aussi chez les jeunes. Bon, c'est vrai, sur le circuit national, oui, ça tourne à peu près une centaine de compétiteurs avec les... En France, il y a 7 à 8 comités hein, qui sont spécialisés dans le biathlon, à peu près sur 14 ou 15. Donc, oui, il y a une belle relève avec les jeunes, aussi bien en masculin qu'en féminin. Et on peut espérer encore pendant quelques années de belles médailles, d'autant que le staff technique est lui aussi vraiment à la hauteur des équipes et des événements.
Ouais. Très bien. Un petit mot sur le comité départemental olympique et sportif des Yvelines. Bon, on s'est vu lors de la soirée donc des éclats. Hein. C'est même là qu'on avait pris donc rendez-vous.
Oui.
avec Monsieur Renon, ça va bien ?
Oui,
Jean-Claude
bien.
Renon, qui était venu d'ailleurs à notre micro, ça va bien ? C'est un changement dans la continuité ? Ou alors c'est un changement de cap complètement ?
C'est un dynamisme, hein. Qui apporte beaucoup au niveau de la gestion, au niveau du relationnel, au niveau de la mise en œuvre. Je pense que le comité départemental olympique et sportif là est en de très très d'excellentes mains et il y a une équipe derrière qui est aussi très soudée, très très meneuse et qui va porter ses fruits là dans un proche avenir, assurément.
Et donc vous allez avoir des actions dans les prochains mois pour vos disciplines, en matière donc de biathlon ou même de ski en général?
Bon, en matière de ski, on reste dans les domaines du sport féminin, du sport santé, qui sont les thèmes aujourd'hui. Et le développement du ski par lui-même semble un peu difficile dans l'esprit actuel, mais bon, c'est vrai qu'il y a des jeunes, et les jeunes, et puis il y a aussi la formation d'instructeurs ou de moniteurs. Là aussi, il faut trouver des bénévoles, faut trouver peut-être des professionnels aujourd'hui, hein, c'est la tendance. Et tout ça fera que il y aura toujours une continuité pour l'esprit du ski et ce que l'on a connu. Et j'espère que ça se développera encore plus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est difficile. On est dans un contexte économique et social qui, je le rappelle, est pas facile.
Oui. Et puis vis-à-vis du sport handicapé, est-ce qu'il y a des actions qui vont être faites pour le biathlon ou pour le ski en général?
Alors, à ma connaissance, là, aujourd'hui, non. Mais peut-être quand dans les stations en moyenne montagne et autres, là, oui, ça peut se développer. Oui, ça peut se faire. Ça peut se pratiquer, de toute façon. Absolument.
Monsieur Joran, le dossier Paris 2024, tout le monde en parle, hein, naturellement. Est-ce que ça peut concerner des disciplines de sports divers comme les vôtres? Est-ce que vous vous sentez malgré tout investi, même si on prône pour les Jeux d'été?
C'est le monde sportif, hein, Paris 2024, on y contribue. Si on faisait appel à nous en tant que bénévoles pour aller sur les épreuves, oui, tout à fait, avec plaisir même. Mais l'apport pour les Jeux d'hiver, J'en suis pas sûr, Enfin, bon.
Très bien, vous restez avec nous pour la dernière pause musicale et la dernière page de pub. Et puis ensuite, on va clore cette émission, ok? Allez, donc tout de suite la pub et la musique.
En centre-ville à Rambouillet, 95 rue du Général de Gaulle, votre traiteur traditionnel au carré d'or et son chef, un restaurateur de la région, vous propose ses entrées et ses plats garnis cuisinés à emporter à 9,60€ sur plats décorés et bouquetières de légumes et ses plats prêts à mettre au four à 12,50€ sur commande. Le carré d'or, c'est aussi son foie gras de canard maison, son saumon d'Écosse label rouge fumé, ses bouchées à la reine à l'ancienne, ses noix de Saint-Jacques au champagne et ses desserts maison. Alors pour vos repas de famille, vos baptêmes, communions, fiançailles, anniversaire et repas de mariage, entre amis ou en entreprise, le Carré d'Or, 95 rue du Général de Gaulle à Rambouillet, 01 34 57 34 40 et sur www.carré-d'or-traiteur.fr. Fermez le lundi. Pour votre santé, bougez plus.
Vous vendez, vous louez, DPE Amiante Plomb, Lois Carrez. Agenda Diagnostic, leader du marché, diagnostique vos maisons, appartements, immeubles, commerces et bureaux. Profitez de l'expérience du premier réseau de diagnostic immobilier au meilleur prix. Agenda Diagnostic Sud-Yvelines, 01 34 83 80 10. www.agendadiagnostic.fr.
Bienvenue au San Lazzaro. Venez déguster ses pizzas et le meilleur de la cuisine italienne dans un cadre convivial et accueillant, agrémenté d'un jardin d'hiver ou à emporter sur commande. Restaurant San Lazzaro, 103 rue Georges Lenôtre à Rambouillet. Téléphone 01 30 41 05 77. Ouvert tous les jours sauf dimanche de midi à 14h15 et de 19h à 22h15.
Arrivait cette année-là. dans votre région avec RVE.
Voilà, je vais simplement remercier donc mon invité qu'on a eu ce matin, circonstance oblige, au téléphone. Merci Monsieur Joran en tout cas d'avoir été disponible durant cette heure.
Ben, merci Philippe, désolé encore de ce qui est arrivé ce matin, mais bon, on fera mieux la prochaine fois.
Mais c'est pas grave, on a fait l'émission, c'est l'essentiel, il faut savoir s'adapter, on l'avait fait pareil avec notre consoeur Mathilde Lazou il y a une quinzaine de jours. Voilà, merci beaucoup Monsieur Joran, et puis bon courage, et puis n'oubliez merci pas, il y a Paris-Roubaix cet après-midi, hein. Voilà.
Hein. Merci.
À
bientôt, Philippe.
À très bientôt. Voilà donc pour cette émission. Merci en tout cas à Victor qui, nouvelle fois, a été très brillant. Il a mené ça de main de maître. La semaine prochaine, on s'accorde un petit week-end de repos, comme pour les fêtes de fin d'année. C'est donc repos pour Pâques. On se retrouve dans 15 jours, le temps pour nous de prendre quelques vacances. Merci à toutes et à tous pour votre immense fidélité. N'oubliez pas, donc, il y a un beau dimanche de sport. Et puis, nos émissions, vous pouvez les retrouver en podcast. Bon dimanche à toutes et à tous sur la radio du sport. Salut.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu. Vivez votre région.